Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver, hein, comme chaque lundi, 19h, 20h30, on va avoir encore beaucoup de choses à vous raconter. On parlera naturellement de la semaine foot, hein, il s'est passé énormément de choses avec notre ami Stéphane Dedenclos. On fera un petit point aussi sur le Paris cycliste, hein, qui était le véritable lancement de la saison de vélo. On fera aussi le bilan du tournoi Destination, et puis fidèle à notre tradition, on va s'intéresser à tous les sports, et même ceux dont on ne parle pas beaucoup. À savoir donc ce soir le paddle avec notre invité Antoine Rapin. Bonsoir Antoine.
Bonsoir à vous, hein, merci pour l'invitation. Ouais.
Alors je disais, on n'en parle pas beaucoup, de plus en plus quand même. Hein.
Ouais, on en parle quand même de plus en plus.
Hein, ouais. De plus en plus. Alors, donc Antoine Rapin, c'est quoi la fonction paddliste Bercy Douce, non? C'est ça? Un peu?
C'est ça, bah, c'est alors on a plusieurs casquettes, voilà. On y reviendra, mais notamment ouais, d'être co-gérant du club de paddliste Bercy. Mmh. Donc un petit club de paddle.
C'est pas très
juste
bon
à côté.
Hein.
Ouais.
Il y a juste le pont à traverser.
On traverse le pont, on est collé au centre commercial de Bercy. Ouais, complètement.
Alors je veux saluer Alexandre qui va m'accompagner dès le début dans cette émission. Ça va,
bonsoir
Alexandre?
Philippe, bonsoir à tous.
T'as passé une belle semaine?
Très belle semaine.
C'est passé beaucoup de choses. Hein,
beaucoup de choses ce week-end en termes de sport, c'était très garni.
Ah ouais. Donc, et puis le paddle?
Paddle, c'est comme on disait, j'ai pas essayé encore, mais j'avais filmé un ami à moi qui avait fait un, je crois que c'était un P100 ou quelque chose comme ça, un tournoi. Mm-hmm. Et c'est un sport vraiment sympa.
Ah bah oui. Sympa. Bah, justement, on est là pour le découvrir. Donc,
c'est physique, hein, c'est physique.
Oui, bien sûr. Alors, Antoine, d'abord, pourquoi le paddle?
Pourquoi le paddle?
Il y a eu du sport avant, il y a eu d'autres activités.
Ouais, moi j'ai fait pas mal de hand, d'athlètes, tout ça. Et puis autour de la trentaine, je faisais moins de sport. Mmh. Mon activité professionnelle, moi j'étais gérant de bar et de resto au départ.
Oui, effectivement.
Donc c'est physique, mais on n'avait plus trop le temps pour faire du sport. Et on cherchait une activité à pouvoir faire notamment en journée, avec des potes dispo. Et du coup, avec des potes restaurateurs, on a découvert le paddle, on a joué, on a essayé. Et l'avantage du paddle, c'est que vous jouez une heure et normalement, vous êtes très, très vite mordu parce que c'est très accessible. Mmh. Et voilà, on a découvert ça avant le Covid. Ensuite, le confinement, il y a eu une petite pause après à cause du confinement. Et puis, on a repris dès que possible le paddle et on est tombé complètement accro, comme beaucoup.
Ouais. Et pourquoi le paddle et pas le tennis?
Alors, moi, j'avais fait un tout petit peu de tennis en loisir, un petit peu de ping-pong, mais vraiment loisir. L'avantage du paddle, quand on démarre un peu sur le tard, c'est que, encore une fois, c'est très facile d'accès. C'est-à-dire que très vite, vous vous amusez, vous êtes quatre, ça se joue forcément en double, on joue à quatre. Donc, il y a un côté très ludique, très sympa entre amis, on boit un petit coup, on grignote. Là où le tennis, pour commencer à s'amuser, pour commencer à performer, il faut un petit peu plus en baver. Le tennis, c'est quand même vachement plus difficile
faire des
balles,
au départ. Il faut faire des balles.
C'est ça. Donc, sur le tard à 30 ans, pour s'amuser rapidement, on est plutôt parti sur le paddle.
Très bien. Alors, c'est vrai, on l'a dit, c'est un sport, une activité qui se développe de plus en plus. On en parle un petit peu partout maintenant. On a même des anciens sportifs haut niveau qu'on connaît bien, hein, qui de plus en plus pratiquent le sport, plus que le tennis par exemple.
Ouais,
c'était souvent dans le passé un sport de reconversion.
C'est ça, le tennis c'était beaucoup, le golf aussi il a été beaucoup. Oui. Là, il y a beaucoup d'anciens footeux notamment qui jouent au paddle. Pourquoi? Parce que physiquement, alors c'est physique, mais malgré tout le fait que le terrain soit relativement petit et qu'on joue à deux, c'est moins physique que d'autres sports, par exemple comme le squash, c'est un peu moins cardio quand même.
Souvent on dit que c'est un mix entre le tennis et puis le squash.
C'est souvent ce qui est revenu parce que il y a le système de comptage des points, c'est le tennis, il y a le filet au milieu et le squash, on peut jouer avec les vitres. Donc il y a ce mélange-là. En fait, quand on joue, c'est quand même très différent, c'est vraiment un sport à part entière. Mais du coup, les anciens sportifs ou les sportifs en reconversion se mettent vachement au paddle et en plus de ça, souvent on les autorise à jouer au paddle même pendant leur carrière. D'accord. Parce que c'est un sport où on se blesse relativement peu. D'accord. Donc il y a plein de sports qu'ils ne peuvent pas faire. Les footeux, ils ne peuvent pas skier. Ils peuvent Et le paddle, souvent, on les autorise. Donc en Espagne, nous, on a eu la chance de on en reparlera, mais d'interviewer Florent Sinama Pongol, qui a joué à l'Atlético. Lui, il a découvert le paddle en Espagne parce qu'il avait le droit de jouer au paddle sur son temps libre, etc. Donc voilà aussi pourquoi il y a pas mal de footeux qui se reconvertissent au paddle.
Oui, parce que sur le plan cardiaque, sur le plan rythme, c'est pas aussi fort et intense que le squash, par exemple.
Non, c'est beaucoup moins engageant. Après, ça reste physique, bien sûr. Mais en fait, quand on se place, plus on se place bien, donc finalement, plus on progresse, presque moins on souffre parce qu'on anticipe les balles, on est moins à cavaler derrière la balle, on anticipe un peu plus. Et du coup, c'est exigeant, mais c'est beaucoup moins exigeant que le squash qui, pour le coup, je crois, est un des sports les plus cardio.
Ah oui, pour le cardio. Cette mode, elle date de quand ? Il y a une dizaine d'années à peu près ?
On je dirais un petit peu moins. En France, ça fait vraiment depuis l'après-Covid. Alors, au niveau du très grand public, en effet, Cyril Hanouna, on avait parlé pas mal.
Oui, il parle beaucoup.
Lui, il a fait découvrir, on va dire, à monsieur et madame tout le monde.
C'est ça.
Après, c'est un sport qu'on a pu pratiquer. C'est Franck Binisti de Paddle Magazine qui a raconté ça, que le Covid, en fait, pour le paddle, paradoxalement, a été un peu un accélérateur. Parce que c'est un des sports qui a été autorisé assez rapidement. À rejouer.
Et pourtant, on était enfermé.
Oui, mais on n'est que quatre. Donc, c'était un espèce de sport collectif.
On pouvait jouer avec le masque. Et puis...
Ouais, mais en fait, on n'était pas si serré que ça. Et du coup, il n'y avait pas peu de contact. Donc, en fait, c'est un sport qui a vraiment, je trouve, en France, en tout cas, pris une autre dimension là dans les 5 dernières années. C'est relativement récent. Et par contre, chaque année, là, depuis 2-3 ans, on est vraiment sur quelque chose d'exponentiel. Je me demande si le nombre de pratiquants ne double pas presque chaque année.
Alors, est-ce qu'il y a une fédération française ou est-ce que c'est encore sous l'égide de la FFT?
C'est sous l'égide de la FFT. Ouais, bien sûr. La Fédération française de tennis qui a décidé d'avoir le paddle sous son aile, on va dire. Je pense pour deux raisons. La première, c'est que c'est au départ, il y avait aussi cette idée que le paddle pouvait être peut-être concurrent du tennis. Donc la FFT, peut-être de se dire, on met le paddle sous notre aile, on le contrôle un petit peu. C'était un petit peu ce qui était dit au départ.
Un dérivé un petit peu comme le foot en salle ou le beach soccer.
Est-ce qu'ils n'ont pas leur propre fédé?
Peut-être maintenant, oui.
C'est ça.
Et justement, est-ce que le risque, c'est pas... Enfin, pour le tennis, est-ce que à force de voir des padelistes de plus en plus pratiquer ce sport, il y aura peut-être un jour une fédération à part entière?
Alors, il y a eu une fédération de paddle au départ.
Oui.
Et la FFT a repris la fédé. Et en fait, pour aller au bout du truc, au départ, il y avait cette idée-là, peut-être qu'il y avait une volonté un peu de contrôle et autres. Oui. Aujourd'hui, le paddle est tellement parti et tellement lancé que la Fédé est plutôt dans l'accompagnement et ils font plein de choses pour le paddle. La preuve en est, c'est que depuis 3 ans, on a une édition du paddle, première paddle à Roland-Garros.
Ah d'accord.
Ouais, en septembre. Donc là, c'est incroyable de voir le Philippe Châtrier avec un terrain de paddle au milieu et les tribunes qui commencent à être de plus en plus blindées. Ouais. Donc la Fédé commence à faire quand même énormément de choses pour le paddle, pour le haut niveau, pour les jeunes, etc. Ça se structure beaucoup.
Oui, alors on sait combien à peu près il y a de joueurs de paddle. Alors en France et en Île-de-France et sur Paris.
Alors aujourd'hui, en France, en tout cas, on parle en France, il y a 80 000 pratiquants qui ont une licence, qui font de la compétition. Donc ils font des tournois, des petits tournois, des gros tournois. Il y a 80 000, on est 80 000 à être classés. Mais on parle, je crois, sans dire de bêtises, que ça bouge tout le temps. On parle de 500 000, autour de 5 à 600 000 joueurs pratiquants qui vont jouer quelques fois dans l'année ou plusieurs fois par mois. Mais voilà, et c'est un chiffre qui, encore une fois, double, il me semble, chaque année.
Mmh. Alors, les règles, c'est quoi Nous, on le sait parce qu'on a étudié le dossier, mais pour le grand public?
Les règles, c'est assez simple. On est donc...
D'abord, en double. On peut pas faire de simple.
Non, on peut pas faire de simple. On peut s'amuser pour du loisir à se faire
c'est
des diagonales.
C'est pas possible un jour?
Alors, moi, j'y crois. Ouais. Parce qu'il y a de plus en plus de clubs qui, quand ils n'ont pas assez de place pour mettre un terrain de paddle en plus, mettent un terrain 1 contre 1. Mm-hmm. Les terrains 1 contre 1 existent, mais c'est simplement pour le loisir ou pour se perfectionner ou pour prendre des cours. Moi, je crois qu'un jour, il se pourrait que ça se développe en 1 contre 1. On perdrait un peu l'ADN du paddle parce que c'est vraiment le côté double.
Oui, oui.
Mais par contre, il y aurait le côté pratique de pouvoir trouver un seul pote pour jouer. Là où le paddle, il faut être 4. Ce qui peut parfois créer un petit peu de sujet. Donc nous, par exemple, au club, on a un groupe WhatsApp pour que les joueurs qui veulent jouer créent une partie et très vite, en fait, en 2 heures de temps, ils ont trouvé des joueurs pour jouer. Mm-hmm. Mais moi, je crois que le 1 contre 1 pourrait voir le jour. Mm-hmm. Mais voilà, les puristes, en tout cas, on reste sur l'idée que c'est un sport qui se joue à deux. Il
n'y
a pas beaucoup de joueurs de sport qui se jouent qu'à deux.
Oui, c'est vrai. Alors, double mix aussi, double homme, double femme.
Alors jusqu'à un certain niveau de tournoi, on peut jouer en mixte, ce qui est super sympa aussi. Alors, il y a des tournois mixtes qui sont imposés un homme, une femme, mais jusqu'au P250 de mémoire, donc ce qui est à peu près l'équivalent du milieu de tableau des tournois, on peut jouer un homme et une femme, même dans un tournoi qui est censé être masculin. Mmh. Une femme peut jouer avec nous, et du coup, voilà, il y a des populations extrêmement variées sur les tournois ou dans les terrains de paddle. Ça, c'est plutôt
cool. Et le double, on peut jouer quel que soit son âge, c'est-à-dire qu'une maman peut jouer avec son fils, un papa peut jouer avec son fils ou
on
sa
voit
fille,
pas mal
quoi.
Ça. On voit pas mal ça, des pères et des fils ou des mères et des filles. Ouais. Jouer ensemble, c'est quelque chose qui se voit beaucoup. Ouais, c'est super sympa. Et les règles, pour juste revenir sur les règles, c'est très basique, entre guillemets, au départ. C'est l'idée d'être 2 contre 2, il y a le filet au milieu. La balle doit toujours rebondir sur le sol, sur la moquette, avant de toucher les parois. Si vous tapez directement la paroi, c'est faute.
C'est pas bon.
C'est pas bon.
C'est dehors, quoi.
Au fond, vous avez une vitre. Donc la balle peut rebondir sur la vitre et vous pouvez la reprendre après le rebond sur la vitre. Et sur les côtés, vous avez des grilles. Et ce qui est pas mal avec les grilles, peut-être on va parler de rugby tout à l'heure, c'est que la balle, quand elle tape la grille, eh ben, en fait, ça crée un rebond complètement aléatoire. La balle peut rebondir en l'air, peut au contraire s'écraser. Et donc, du coup, jouer contre la grille, c'est pas mal parce que ça crée de l'inconnu selon comment on va rebondir la balle.
Oui. Donc, après le décompte, c'est pratiquement celui du tennis.
C'est celui du tennis.
Je crois qu'il n'y a pas l'avantage.
Ça dépend des tournois.
Ça dépend des tournois.
Certains tournois sans avantage. À 40A, on appelle ça le Punto de Oro. Il y a beaucoup de vocabulaire espagnol dans le paddle parce que c'est né au Mexique.
C'est né au Mexique, justement, j'allais demander.
Ouais. En 69, au Mexique, et très vite exporté en Espagne. Aujourd'hui,
l'Espagne. Il y a peut-être un peu de basque aussi, alors. Il y a peut-être un peu d'un sport dont on a parlé aussi.
Ouais,
aussi.
Bah, la raquette au paddle s'appelle la pala.
Eh oui.
Donc, il y a Non, mais il y a des liens avec la pelote basque aussi. Aujourd'hui, c'est l'Espagne, vraiment le pays majeur du paddle dans le monde. L'Espagne et l'Argentine, mais l'Espagne vraiment au-dessus des autres. Et le système de points, 15, 30, 40. Punto de oro quand il n'y a pas d'avantage ou avantage. Selon les tournois, il y a avec ou sans avantage.
Mais si je comprends bien, donc, ça veut dire que c'est l'Espagne et l'Argentine.
Ouais.
C'est un sport qu'on peut pratiquer dehors, en plein air.
Ouais, bah bien sûr. Alors, dans le sud de la France, en Espagne, en Argentine, en Grèce, voilà, ça se joue énormément en extérieur, avec quand même des petits sujets, parce que le soleil, surtout que le paddle se joue beaucoup en lob, donc quand vous avez... Alors déjà, il fait chaud, et puis surtout, la balle, quand elle passe devant le soleil, vous êtes très très vite ébloui. Donc, il y a des contraintes sur l'extérieur. L'avantage, c'est que c'est beaucoup plus facile de monter un club de paddle quand vous n'avez pas besoin d'avoir une structure, que quand à Paris, forcément, on est obligé d'avoir une structure. Et on le rappelle, le paddle... Pour être homologué, il faut 7 mètres de hauteur sous plafond, ce qui est compliqué. D'où l'idée qu'à Paris, on y reviendra peut-être, mais monter un club à Paris, c'est un vrai challenge.
Alors, donc, c'est en 2-7 ?
Alors, c'est en 2-7. Dans les tournois, on va dire les premières catégories de tournois, donc P25, P100, jusqu'à, je crois, P250, on va être sur des formules de 7, de 4 jeux, pour que les matchs soient assez dynamiques. Souvent, on a une poule, donc on va jouer 3 matchs dans la poule. Donc, c'est des petits formats de matchs, histoire qu'au bout de 3 matchs, on ait encore un petit peu de physique pour continuer le tournoi. Et à partir d'un certain niveau, on va être sur la même formule que les matchs de tennis en 2-7 gagnants, donc 2-7, 2-6, et un troisième set au besoin s'il y a un set partout.
Ouais, donc, ce sont des matchs qui peuvent durer quand même un certain temps.
Ça va durer entre 45 minutes et 1h30. Donc, on ne va pas être sur des matchs de 3-4 heures au tennis, mais on va être sur des matchs qui peuvent durer 1h30. Ouais.
Il peut y avoir un jour des évolutions, des règles.
Alors, sur les règles, il y aura à trancher, je pense, l'idée de avantage ou pas avantage, parce que ça, aujourd'hui, il y a les deux règles selon les tournois, mais je pense que ça va être tranché. Moi, je milite plutôt pour le sans avantage, ce qui distingue du tennis.
Oui,
voilà. Et puis, ça crée un vrai suspense à 40 partout, point décisif, on y va. Alors là, faut pas. Faut assurer mentalement, c'est pas évident. Il y a un sujet sur les surfaces aujourd'hui. Est-ce que il y a un club en Uruguay, je crois, qui a ouvert avec une surface en terre battue.
Ah oui.
Ouais. Alors pour se dire, est-ce que comme au tennis, on pourra pas avoir différentes surfaces qui feraient en fait différents types de pratiques avec des jeux plus ou moins rapides, plus ou moins lents. Donc ça, c'est un vrai sujet. L'idée d'avoir plusieurs surfaces au paddle, ça, c'est quelque chose qui pourrait évoluer.
Oui, parce que c'est quoi la surface actuellement ?
Alors aujourd'hui, c'est une moquette qui est sablée. Le sable en fait va plaquer la moquette au sol. Alors il y a plus ou moins de sable, donc il y a des terrains où vous allez voir le sable, d'autres où vous le voyez pas du tout. Nous à Padelis-Bercy, on voit un petit peu le sable. C'est un terrain qui est un petit peu plus glissant, donc vous allez moins vous planter, on va dire, dans le sol. Il y a d'autres surfaces qui sont où le sable est pas du tout visible, où c'est un petit peu plus un peu moins glissant. Donc voilà, mais aujourd'hui c'est la seule surface qu'on a homologuée, c'est des moquettes.
D'accord. Alors après, l'équipement, c'est l'équipement du tennisman.
Alors le monde du paddle, parce que c'est devenu un vrai business, a créé ses propres outils, ses propres accessoires de pratiquants. Les chaussures, il y a des chaussures spécifiques paddle.
Ah, spécifiques ?
Ouais, bien sûr. Alors ce qu'on dit, pour ceux qui n'ont pas de chaussures de paddle, des chaussures de terre battue, de tennis de terre battue, parce que justement il y a cette petite glisse, peuvent faire l'affaire. Mais vous pouvez, quand vous commencez à jouer, vous voulez du vrai matos, donc vous achetez vos baskets de joueurs de paddle, short, t-shirt. Et la raquette, donc la pala.
Ouais, alors justement,
de paddle.
Ouais. Elle est comment cette raquette ?
Elle est comment ? Alors, elle est, pour ceux qui ne voient pas, elle est un petit peu épaisse, elle est trouée pour laisser l'air passer quand on va taper la balle. Certaines raquettes sont très lisses, d'autres ont un petit relief pour mettre un petit peu plus d'effet. Et puis après, on va jouer sur le poids de la raquette. Il y a des raquettes qui sont un peu plus lourdes, qui ont le poids un petit peu plus en tête pour des raquettes qui vont frapper un peu plus fort, ou qui ont le poids un peu plus en manche pour des raquettes qui vont être un peu plus
d'accord.
en contrôle.
Ça veut dire qu'on peut en avoir plusieurs, quoi.
Ouais, alors, encore une fois, quand on commence à être bien mordu de paddle, on a envie d'avoir des raquettes, le top niveau. D'ailleurs, ils se font plaisir, les constructeurs.
Justement, est-ce qu'il y a beaucoup d'évolution et est-ce que c'est facile de trouver du matériel?
Alors, le matériel évolue constamment. Il y a beaucoup de recherche et développement, je crois, sur le matériel. Ça devient de plus en plus facile d'en trouver parce qu'il y a des sites. Nous, on est assez proche d'un site qui s'appelle Paddle Référence qui a vraiment, vous trouvez tout ce que vous voulez dessus. Avec, en plus, ils ont fait un système sympa, une sorte de questionnaire. Vous mettez votre niveau, votre budget, quel type de raquette vous voulez, ils vous sortent un petit peu la raquette idéale. Parce que ce n'est pas facile de choisir son modèle quand on est un peu paumé. Et puis, il y a Décathlon.
Elles sont en titane
Elles sont en carbone. Bien souvent, elles sont en carbone ou en fibre de verre. Souvent en carbone. Donc, c'est des matériaux qui sont assez coûteux. C'est aussi pour ça que les raquettes de paddle, c'est quand on a une bonne raquette, c'est pas donné.
Ça coûte combien à peu près?
Ça coûte, premier prix, on va trouver autour de 60-70 euros jusqu'à 350 euros.
D'accord. Mais enfin, bon, ça dure quelques années quand même.
Si vous jouez régulièrement une raquette, je pense que ça dure un an. Si vous jouez, si vous jouez une fois par semaine, ça va durer un an et demi. Mais en fait, à un moment donné, la mousse va s'user. Et puis, le paddle, vous risquez aussi de taper la raquette contre les vitres ou contre les grilles. Donc, vous pouvez aussi l'abîmer, voire la casser. Donc, pour moi, une raquette de paddle, ça dure une bonne année. Mm-hmm. Décathlon à côté, aujourd'hui, il y a un rayon de raquettes.
On en trouve dans tous les commerces, de sport.
Des commerces spécialisés, on en trouve de plus en plus. C'est là qu'on voit que le paddle se développe, parce qu'il y a encore 3-4 ans, il y a certaines grandes enseignes de sport qui n'avaient pas de raquette. Maintenant, vous trouvez quand même toujours, il n'y a pas 40 modèles, mais vous trouvez toujours 3-4 modèles pour.
Oui, parce qu'il faut l'adapter à sa taille, non? Comment ça se passe?
Alors, il y a des raquettes pour enfants.
Oui.
Et puis après, c'est des raquettes qui vont être plutôt adaptées en fonction de sa condition physique et de son style de jeu. Mm-hmm. Si on veut un jeu plus offensif, on va prendre une raquette un peu plus lourde. Si on préfère un jeu, ou alors si on a des problèmes, des petits problèmes de coude ou de tennis elbow, ce genre de choses-là, on va vouloir une raquette plus maniable, plus légère, parce que ça peut être un petit peu traumatisant pour les articulations.
Oui. Et la balle ?
Et la balle, c'est une. Alors quand vous la voyez, vous pensez que c'est une balle de tennis, mais en fait, c'est un peu plus petit, c'est un peu sous-gonflé par rapport à une balle de tennis. Donc c'est un peu plus mou qu'une balle de tennis. Donc pareil, la balle, par contre, vous jouez pas avec des balles de tennis, vous jouez avec des balles de paddle.
Ouais. Et ça, c'est à la charge du club ou le pratiquant, il est aussi obligé d'avoir ses balles.
Le pratiquant achète son matos. Le problème des balles, c'est que ça peut pas se prêter, parce qu'une balle s'use en fait.
Oui.
Donc une balle, vous l'achetez, vous la louez, on vous louez pas non plus des balles, vous achetez votre tube de balles.
C'est ça.
Et après,
comme
vous pouvez
tennis,
faire plusieurs parties.
Comme les balles au tennis, exactement. Au bout d'un moment, les balles.
Et puis au bout d'un moment, c'est un peu ramolli. Ouais, alors soit vous continuez avec, soit vous les donnez au chien pour qu'il les mâchouille.
Non, je voulais savoir c'était quoi le prix moyen à peu près d'une raquette de paddle.
C'est ça. C'est, pour moi, quelqu'un qui va démarrer, mais qui commence à y jouer un petit, toutes les semaines, un peu sérieusement, ça ne sert à rien d'acheter une raquette à 300 euros. Et une raquette à 50 euros, ça va être pas terrible. Donc autour de 100 à 150 euros, je pense que c'est le bon prix aujourd'hui pour avoir une raquette de moyenne gamme qui soit quand même suffisamment performante et sans non plus ruiner dès le départ.
Mmh. Alors ensuite, combien de clubs sur Paris et sur l'île de France? Alors des clubs, et après on parlera un petit peu des structures privées, mais quelqu'un qui voudrait faire ce sport, s'inscrire et faire de la compétition, il va où?
Alors, aujourd'hui, Paris Intramuros, alors je peux dire des bêtises parce que ça évolue très vite, on est très peu de clubs de paddle Paris Intramuros.
Oui.
On doit être 4 ou 5 maximum, qui ont tous vu le jour dans les 2-3 dernières années, Paris Intramuros. Et c'est, de ce que je pense en tout cas, que des clubs privés.
Oui.
Ensuite, première couronne, vous trouvez quelques clubs municipaux, des clubs de tennis qui ont mis des terrains de paddle sur leurs installations. Et en banlieue parisienne, pour le coup, vous avez des très gros clubs qui sont là depuis maintenant des années. Comme Casa Paddle, qui sont là depuis, je pense, 10 ans. Paddle Horizon. Donc, il y a des gros clubs en Ile-de-France qui ont 8, 10, 12, 15 terrains. Marne-la-Coquette, etc.
Il y en a un Saint-Denis, un gros club.
Casa Paddle. Casa Paddle, c'est un des historiques. Vraiment un des premiers, si ce n'est le premier très très gros club d'Île-de-France, et même de France aujourd'hui, c'est un des plus gros clubs de France. À Saint-Denis, Casa Paddle, c'est un peu une référence.
Oui, mais ça commence alors par des structures privées, quoi, et après on installe un ou deux cours.
Aujourd'hui, il y a deux modèles qui cohabitent. Voilà, il y a les structures privées qui sont souvent rattachées à la FFT parce que ça permet d'organiser des tournois. Et aujourd'hui, les joueurs de paddle veulent faire des tournois, même si c'est des petits tournois, ils veulent. Le côté compète, il est quand même présent. Et il y a les structures municipales, on va dire plus classiques, des clubs de tennis qui, eux, vont mettre des terrains de paddle en plus sur leurs installations de tennis.
Mmh. Alors vous, l'idée, ça a été de monter carrément un complexe.
Un
complexe de paddle, carrément.
C'est se dire, on aime
on
ce
monte
sport,
un club et une structure autour.
C'est ça. En fait, nous, on est historiquement avec moi. Quand je dis nous, parce que je suis avec mon frère et mon meilleur ami. On est trois associés.
Kiotski, je crois, exactement.
Comment Kiotski? Salut Martin. Il nous écoute, je pense. Martin et Hugo. Donc, on est trois dans l'équipe. Et historiquement, on est gérant de bar de restaurant et avec Martin, on a beaucoup bossé dans l'événementiel.
Ouais.
Et en se disant, tiens, on est fou, on est tombé fou amoureux du paddle. Le resto, on commence à avoir un peu fait le tour. Et puis, c'est un rythme de vie qui est gérer un resto, c'est quelque chose. Et on s'est dit, bah, est-ce qu'on n'ouvrirait pas notre petit club de paddle? Et en fait, c'est compliqué d'ouvrir un club de paddle à Paris parce qu'on en a parlé. Il faut de la hauteur sous plafond, il faut trouver le bon endroit. Le foncier, c'est quand même pas donné. Il faut pas gêner les voisins. Donc, pas facile. Donc, c'était un petit peu le challenge d'ouvrir ce club à Paris. Et aujourd'hui, c'est le premier. Et notre objectif, c'est d'en ouvrir d'autres.
Ah, c'est bien. C'est bien.
Ouais, c'est de
ça a été facile quand même. Ça a été très long ce projet. De trouver au moins l'endroit, le site. Bon, vous êtes tout près de Bercy. Hein,
se coller au centre commercial de Bercy 2.
Ça peut pas être mieux.
Ouais, on est pas mal.
Mieux placé, quoi.
En placement, ouais. En placement, on est cool. Ça a mis quelques mois pour trouver l'endroit. Et puis après, on est en France. Donc, tout ce qui est administratif, c'est un petit peu long. Donc voilà, il faut un entrepôt. Un entrepôt, au départ, n'est pas censé recevoir du public. Donc, il faut transformer l'entrepôt en ERP, comme on dit, en établissement recevant du public. Et tout ça a pris un peu de temps. Le principal, c'est que ça a vu le jour, là, il y a bientôt un an, en avril 2024. Ouais. Donc, c'est tout frais.
Oui, parce que, bon... Ça se fait comme pour l'alpinisme, comme le foot en salle, quoi. Voilà, des structures autour d'un sport.
C'est ça, c'est des clubs où en fait les joueurs, c'est vraiment le sport loisir qui se développe beaucoup. Vous avez reçu Arcos, par exemple, au niveau de l'escalade.
Oui,
c'est le sport loisir où les salles de fitness, on vient, on consomme, on va dire, du sport. On n'est pas obligé de venir toutes les semaines à même heure, même jour. On va réserver en ligne. Souvent, nous, on a une application, l'application Padelis. Vous réservez votre créneau avec vos copains. Vous jouez une, deux, trois, quatre fois par semaine. Il y en a qui jouent quasiment tous les jours. Et donc, c'est de la pratique comme ça, loisir. Au bon vouloir, entre guillemets, du joueur quand il le souhaite, quand il est disponible, et puis avec les petites compètes le week-end.
Oui, alors donc vous, c'est un établissement qui fonctionne 7 jours sur 7.
7 jours sur 7, de 7h30 à minuit.
Ah oui.
Avec la petite particularité que le matin, on est autogéré. Donc c'est-à-dire qu'en fait, les pratiquants viennent, ils reçoivent un code par mail, donc ils ont accès au club sans forcément qu'il y ait besoin d'avoir un staff, même s'il y a souvent du staff, mais en tout cas, ils peuvent venir de manière autonome. Et puis, il y a une équipe qui reçoit les personnes plutôt dans l'après-midi et dans la soirée, puisque c'est le moment où on a envie de grignoter, de boire un petit verre après la partie, on diffuse les matchs de foot notamment, on en reparlera.
L'idée, c'est de
créer dans ce petit club-là un vrai petit lieu de vie. La buvette, la grignote, c'est quelque chose qui est important au paddle, de se retrouver, de refaire le match à la fin à 4.
Est-ce qu'il y a aussi lié à des événements, je ne sais pas, un anniversaire un séminaire enterrement de vie de jeune fille ou de garçon, ça se fait aussi.
On a eu quelques anniversaires, on a beaucoup d'événements de séminaires, de team building, comme on dit. Beaucoup de boîtes, parce que en plus on a une salle de réunion à l'étage, donc en gros une société va venir à 15 ou 20, va faire sa petite réunion à l'étage avec le bilan de l'année ou autre. Derrière, initiation paddle, petit tournoi, et on finit par les planches, charcut de fromage, où il y a des quesadillas aussi dans l'esprit du Mexique. Et donc, on peut passer, pour une société, peut passer toute son après-midi et sa soirée au club. Et en fait, ce qui est bien, encore une fois, c'est que n'importe qui, même si les gens n'ont jamais joué, ils s'amusent très vite.
Bien sûr.
Voilà.
C'est le but. Et ça va, ça se passe bien. Pour l'instant, c'est pas trop compliqué parce que il faut quand même sortir une somme d'argent.
Il faut sortir une somme d'argent. Le plus compliqué, très honnêtement, c'est de trouver l'endroit.
Oui, c'est ça.
Après, un terrain de paddle, ça se monte en une semaine. C'est livré, tout est produit en Espagne, de toute manière. Donc, il y a des constructeurs qui font venir les terrains d'Espagne. C'est clé en main. C'est pas très compliqué techniquement de poser un terrain de paddle à partir du moment où on a le hangar, où on a l'endroit, où on a un sol plat. Donc voilà, il y a quand même des petites contraintes au départ. Mais oui, c'est un certain investissement. Mais on a la chance que le paddle aujourd'hui marche très très bien. Donc, et puis nous, c'est une toute petite structure parce qu'on a deux clubs. Donc forcément, on est rempli 90% du temps.
Oui, alors vous avez monté un club aussi. Donc c'est les Padelis, c'est ça.
C'est ça, Padelis Bercy, c'est le nom du club. L'idée, c'est d'en ouvrir d'autres. Donc là, il y en a un dans le... qui va arriver. Je ne peux pas encore le dire parce qu'on n'a pas encore signé totalement.
Il ne faut jamais
le
dire.
Je ne vends pas la promesse, mais je vous le dirai. Voilà. Donc c'est ça, nous, notre modèle, en fait, c'est d'ouvrir... Chaque structure a son propre modèle, on va dire, de développement. Nous, l'idée, c'est d'ouvrir des petits clubs, parce qu'on aime bien le côté aussi très convivial d'une petite structure, mais d'en ouvrir plusieurs, que ce soit à Paris ou ailleurs en France d'ailleurs. Là, on se renseigne sur d'autres régions.
D'accord. Même en Ile-de-France, pas forcément Paris.
Alors nous, ce serait plutôt soit Paris, soit carrément ailleurs.
D'accord.
Puisque comme je vous disais, en Ile-de-France, c'est déjà quand même bien pourvu en très grosse structure. Et du coup, nous, ce serait plutôt d'autres villes hors de la région parisienne.
Alors... Bon, si on vous rejoint, on paye combien dans votre club, le prix de la licence et la cotisation déjà?
Alors, la licence, c'est une licence qui vous couvre, c'est uniquement si vous faites de la compétition. Oui, la licence, aujourd'hui, c'est la FFT hein, qui encaisse la licence. C'est pas très cher, c'est 26 euros par an.
Ah oui, effectivement.
Par contre, le paddle, la pratique du paddle, c'est une pratique qui est assez chère.
Oui.
Faut être honnête. Vous allez être, si on remet à l'heure, selon l'heure pleine ou l'heure creuse, vous êtes entre 10 et 15 euros de l'heure par personne.
Ah oui, quand même.
Donc, c'est une vraie dépense aujourd'hui, le paddle. Parce que, encore une fois, à Paris, y a le coût du foncier et on paye un loyer cher quand on veut habiter à Paris. Vous imaginez bien qu'un loyer commercial, c'est la même chose.
Et en plus, de toute façon, tous les clubs sportifs louent aussi et payent aussi un loyer pour un gymnase et pour leur club.
Oui.
Donc, c'est une tradition sur Paris.
Ouais, ouais, il n'y a pas trop de choix. Après, c'est sûr que si vous êtes dans une petite ville du Massif central, j'imagine que le niveau de loyer n'est pas le même et du coup, le niveau du tarif locatif est moins cher aussi. Voilà,
Alors, quelles sont les actions que vous faites? Est-ce que vous avez fait des actions caritatives? Je ne sais pas, moi, pour le Téléthon. Est-ce que vous l'ouvrez aussi aux jeunes, aux scolaires?
Alors, on n'a pas fait d'action caritative encore. On a l'ambition d'organiser, d'organiser des tournois en mettant en avant des associations. C'est quelque chose que notamment Casa Paddle, je leur fais un coucou parce que je sais qu'ils le font beaucoup. Les scolaires. Alors nous, en fait, on a un prof au club et nous, on se fait la passation en fait entre les parents d'enfants, de jeunes qui veulent prendre des cours et nous, notre prof en fait qui va donner des cours. Donc, on n'a pas aujourd'hui monté à proprement parler d'académie. On est une trop petite structure aujourd'hui pour ça, mais il y a une vraie demande sur les jeunes et sur les enfants. Donc on en a de plus en plus en effet, donc c'est un vrai axe de développement. Et non, sinon nous on a fait des événements sympas. Ouais. On a organisé un événement avec la fondation de la RATP avec 8 champions qui étaient aux Jeux Olympiques.
Ah bien.
J'ai touché une médaille d'argent olympique. Avec, je ne me rappelle plus de son prénom, il ne m'en voudra pas, mais la personne qui était guide de l'athlète qui a fini deuxième du 400 mètres de mémoire.
Ah d'accord.
Voilà, il y avait aussi une athlète de breakdance, il y avait une athlète d'escalade.
Bien,
donc
bien.
On a passé un très bon moment avec ces 8 champions olympiques qui nous ont raconté aussi comment c'était les JO à Paris avait l'air incroyable.
Et pendant les Jeux, justement, ça s'est passé comment pour votre centre?
Pendant les Jeux, très honnêtement, ça a été presque plus de contraintes qu'autre chose parce qu'on n'est pas loin de la Seine, donc on a eu quelques fermetures en termes d'accès. Voilà, maintenant ça faisait partie du truc. Nous, l'équipe padeliste, on était à fond dans les Jeux, donc c'était top. Juste à côté de nous, il y a le marathon qui est passé, donc on est allé voir. Et donc voilà, on peut pas dire que ça a été un boost incroyable pour le club, la période olympique. Par contre, le jour où le paddle sera sport olympique,
oui, alors justement,
là, ça serait vraiment chouette.
Il y a des chances un jour que ça devienne.
Il y a des grandes chances, ça va le devenir. Moi, j'en suis persuadé. Oui. Tous ceux qui s'intéressent au paddle le voient venir. 2028, c'est un peu court.
Ouais. Parce 32 que... peut-être.
Ouais, 2028, c'est Los Angeles et les Américains sont partis avec un peu de retard. Ça y est, ils s'y mettent, mais avec un peu de retard. 2032, il y a bon espoir à, je crois que c'est Brisbane en Australie.
Oui,
L'Australie se met fort au paddle. Donc l'objectif, c'est un petit peu ça. C'est 2032, il y a de grandes chances parce qu'aujourd'hui, le paddle se joue quasiment sur tous les continents. L'Afrique du Nord joue très fort. Moyen-Orient, ça joue beaucoup. L'Amérique du Sud, évidemment. Les États-Unis s'y sont mis très fort. Donc il y a encore un petit peu de boulot à faire en Asie. Parce que c'est vrai que pour être sport olympique, il faut être vraiment mondial. Mais oui, le paddle sera olympique 2032-2036 au plus tard.
Et sur l'Europe, les autres pays européens, dans le nord par exemple de l'Europe, parce qu'on parlait du plein air, mais bon, ça joue beaucoup en salle.
Ouais. Mais même en Espagne, en fait, ils construisent de plus en plus, parce que la canicule, la chaleur, le soleil. Donc en Europe, les gros pays européens, c'est la Suède. La Suède a construit énormément. Grosse culture sportive aussi, avec une population qui est très sportive. Oui. L'Italie, c'est monstrueux. Il y a trois fois plus de terrain en Italie qu'en France aujourd'hui. Donc, l'Italie, c'est énorme. Et la France, on doit être pas très loin. Le Portugal aussi, beaucoup. Et puis, il y a des pays qui s'y sont mis avec quelques années de retard, entre guillemets. Donc, l'Allemagne s'y met, l'Angleterre s'y met. L'Europe, en gros, s'y met quand même très, très fort. Il n'y a pas un pays d'Europe qui ne s'intéresse pas au paddle aujourd'hui.
Il y a beaucoup de femmes dans le paddle. Beaucoup de femmes,
alors,
des jeunes filles.
En Espagne, il y a autant d'hommes que de femmes.
Ah, ouais.
C'est complètement mixte. En France, il y a un petit déficit. Donc, nous, on le répète jamais assez aux jeunes filles ou aux femmes de s'y mettre. On a, je crois, 15% de femmes qui jouent au paddle en France, ce qui est assez faible. Et on ne sait pas trop pourquoi. Donc, nous, on invite... On invite les filles, les femmes à s'y mettre et en général, en plus, encore une fois, l'essayer, c'est l'adopter parce qu'on s'amuse très, très vite.
Alors, vous faites aussi des vidéos.
Ouais, et complètement.
À travers YouTube, des sortes d'émissions, c'est ça?
C'est ça.
Pas de le spécialiser.
Ouais, bah ouais. En fait, quand on a voulu ouvrir un club et qu'on s'est rendu compte que c'était pas facile, ouais, on s'est dit, comment faire pour exister dans ce petit monde-là en attendant le club? Et donc, on est allé voir la Fédération Française de Tennis. Je fais un coucou à Arnaud Di Pasquale à l'époque qui nous avait mis en contact et qui est adorable et qui avait été très à l'écoute. Et donc, on a fait un documentaire, vlog sur YouTube, sur la chaîne de la FFT, en 8 épisodes, qui s'appelait Padelist, du coup. Et l'idée, c'était 4 amis trentenaires qui découvrent un nouveau sport, le padel. Et on est allé pendant un an à la rencontre du paddle fauteuil, du sport féminin, des amateurs, du haut niveau, des tournois. On a fait une sorte de tour de piste un petit peu du monde du paddle pendant un an. Et du coup, ça a fait aussi connaître notre petite marque, on va dire, Padelist. Ce qui fait que quand on a ouvert le club, on démarrait pas de zéro. C'était pas mal. On avait déjà du monde un petit peu sur les réseaux. Je place ma petite pub Team Padelist sur Instagram, j'en profite.
Faut le faire.
Donc voilà, l'idée c'est qu'on a à la fois les clubs et à la fois le contenu. Pour nous, c'est super important.
Bien sûr.
Déjà parce que ça nous amuse de le faire. Quand on part en immersion sur un tournoi, là on va aller à Bordeaux, il y a un très gros tournoi qui arrive, le P2 de Bordeaux. Et ben on raconte tout ça en vidéo, comment ça se passe un tournoi de paddle de l'intérieur. On va dans les coursives, on va dans le village aussi qui est tout autour, on va interviewer les champions. Donc nous, on aime bien avoir les deux aspects. Le côté club et le côté contenu, c'est un peu notre particularité.
Oui, et il y a des mags spécialisés aussi.
Ouais, bah alors
par Internet ou dans la presse écrite?
Presse écrite, un peu moins.
C'est relayé par Internet maintenant.
Bah, Paddle Magazine, on va dire que c'est la référence. C'est les premiers. C'est les premiers. Aujourd'hui, c'est vraiment une bible du paddle. Il y a Paddle Mon Amour aussi, qui avait la version tennis Mon Amour, assez connue dans le tennis, qui a lancé sa version paddle. Et puis, il y a énormément de comptes Instagram aujourd'hui.
Oui.
Paddle Explorer, qui est super, qui relate tous les résultats du paddle. Paddleonomique, qui est plus sur les stats et l'analyse du paddle. Donc, il y a de plus en plus de médias paddle. Et de plus en plus de créateurs de contenu aussi qui font découvrir ce sport, comme Léo Poulain par exemple, où lui c'est plus un champion qui progresse, qui montre sa progression, là où nous on était plus sûr, on n'est pas du tout des champions, mais par contre on vous fait découvrir le sport.
Très bien, allez, on va marquer une pause musicale. Je sais que vous aimez tous les sports, donc on fera un petit bilan du tournoi. Il a été diffusé le match dans vos établissements samedi soir, France-Écosse.
C'était magnifique, bien sûr.
Très bien, allez, la musique et ensuite on va faire le bilan de cette édition 2025 que l'équipe de France donc, a gagnée.
Moi je file un rencard à ceux qui n'ont plus rien. Sans idéologie, discours ou baratin, on vous promettra pas les toujours du grand soir, mais juste pour l'hiver, à manger et à boire.
À tous les recalés, de l'âge et du chômage, les privés du gâteau, les exclus du partage, si nous pensons à vous, c'est en fait égoïste. Demain, nous ne peut-être grossir la vie.
On a
Voilà, bah comme promis, on va maintenant parler du tournoi Destination. On va faire le bilan avec un de ceux qui avait été un de nos invités pendant nos émissions spéciales sur le Mondial 2023. C'est Gilles Schmitt. Gilles, bonsoir.
Bonsoir.
Ouais, alors Gilles, ça y est, ils l'ont fait, les Français l'ont gagné, ce tournoi 2025.
Il était temps.
Oui.
À la fois, il était temps, puis il était aussi extrêmement important. Ça permet de tourner la page du Mondial.
Bien sûr. Alors,
et de repartir sur une dynamique plus utile, positive, et de bien préparer la future tournée en Nouvelle-Zélande. Il faut qu'on se remette dans une nouvelle perspective de nouvelle Coupe du Monde. Et je pense qu'on a à la fois assumé, digéré, enfin j'ose espérer,
oui,
du moins cette victoire de tournoi, doit nous permettre de digérer ce quart de finale de la Coupe du Monde.
Oui, parce que cette génération très talentueuse, hein, souvent, il lui manquait le petit quelque chose. Elle avait fait 4 fois deuxième du tournoi Destination, ce quart de finale de Coupe du Monde qui était perdu. Il n'y avait que le grand chelem de 2022, quoi. Donc, elle se sentait un petit peu frustrée.
Tout à fait. Et on peut voir que, d'ailleurs, dans ce tournoi, il y a quand même 3 équipes qui se dégagent, hein, l'Angleterre, oui, la France et l'Irlande. Et les 3 autres qui sont, alors, l'Écosse, elle a son niveau.
Oui.
L'Italie continue de travailler et engrange quelques points. Et elle est, en tout cas, elle n'est pas dernière. Et malheureusement, j'ai une petite pensée émue pour nos amis gallois,
ouais,
qui ont été quand même, je veux dire, les fers de lance de ces 30 dernières années du rugby mondial même, hein, et surtout du rugby européen. Mais pour revenir, la France est à sa place. L'Angleterre s'est refait de santé, a refait un beau tournoi.
Mmh.
Et les Irlandais sont, à mon avis, c'est l'équipe qui va rester dans le doute, qui va rentrer dans le doute parce qu'ils n'ont pas fait ce qu'ils auraient dû faire.
Ouais, c'est peut-être la fin d'un cycle, hein, pour eux.
Exactement.
Ouais, hein, c'est la fin d'un cycle. Qu'est-ce qui fait la force de cette équipe de France? C'est avant tout son collectif, Gilles.
Bien sûr, c'est son collectif. Je pense qu'on a affaire à des jeunes qui ont envie de jouer et de gagner ensemble. Il y a eu des marques, de très grandes marques de respect, comme le capitaine. Ça peut paraître du détail vu de l'extérieur, mais la remise de la médaille à Dupont, la remise de la médaille à Barizi de la part de Ficou, tout ça, ça dénote dans l'état d'esprit. Et je pense qu'ils ont compris que 2027, ça se prépare aujourd'hui. Voilà.
Bien sûr. Alors, on va en plus rappeler quand même que l'équipe de France a scoré assez large, hein, pratiquement dans tous ses matchs, sauf naturellement ce match contre les Anglais, hein, qui laisse des regrets. Mais l'équipe de France battue 26-25. Mais quand on voit les scores, il y a plus de 19 points entre la France et puis l'Écosse, 35-16 pour la France. Il y a plus de 15 points entre donc l'Irlande et puis la France, 42-27. Il y a 49 points d'écart entre donc la France et l'Italie, hein, 73-24. Et puis, il y a 43 points contre le Pays de Galles, hein, 43-0. Donc, cette équipe de France, elle a encore quelques belles années devant elle. Hein.
Bien sûr, j'ai tenté de dire qu'aujourd'hui, elle a une très belle page à écrire. Elle a tout à faire. À prouver, non, parce qu'on est capable. Mais il ne suffit pas de gagner le tournoi. Maintenant, ouais, il faut qu'on remette dans une dimension technique, psychologique,
ouais. Ouais,
pour pouvoir gagner cette Coupe du Monde.
Oui, et puis il y a eu des records dans ce tournoi quand même, hein, parce que Ramos reste le meilleur buteur de l'histoire des Bleus avec 450 points. Bien Barret,
oui, oui,
lui, marque 8 essais dans un tournoi, il égale Bernard Salle. Et puis, on a marqué 30 essais, on parlait justement que les Français avaient scoré, on a marqué 30 essais, ce qui est un record, on bat les Anglais qui avaient marqué 29 essais en 2001.
Oui, alors tout ça, c'est de bonne augure, tout ça, c'est… Il y a simplement un petit point sur,
oui,
lequel je voudrais revenir,
oui,
parce que,
oui,
contre le France-Angleterre, on a acheté en peinture un peu notre ouvreur Béglé, là,
oui,
et je pense que, eu égard à l'esprit d'équipe qui est entretenu en équipe de France, eu égard à tout ce qu'on a envie de véhiculer, je pense qu'on aurait pu, à la fois, les staffs auraient pu se montrer un peu plus solidaires de l'ouvreur. Parce qu'en fin de compte, in fine, si on perd contre l'Angleterre, c'est surtout pas à cause de lui.
Oui.
Il y a un certain nombre de joueurs qui ont raté leur match, mais qu'on a passé sous silence. Voilà, je serais tenté de dire que c'est la seule zone d'ombre que je mettrais sur ce tournoi. Je pense qu'avec Jalibert, on aurait pu être un peu plus solidaire.
Voilà. Très bien. Merci Gilles, en tout cas. Et puis, maintenant, c'est la Nouvelle-Zélande. 3 test-matchs au mois de juillet pour justement bien préparer non seulement le tournoi 2026, mais surtout cette Coupe du Monde 2027.
Ah, bien sûr, on attend tous avec impatience, mais n'oublions pas que nous avons assisté à une fin de top 14 extrêmement, je veux dire, riche et motivante, parce que il y en a au moins 4 ou 5 qui peuvent descendre, si ce n'est pas 6, et 6 ou 7 qui peuvent rentrer dans le top 6. Quoi.
Ouais.
Donc, ça va être passionnant, et avec toutes les équipes françaises requalifiées en Coupe d'Europe, on va avoir une fin de championnat, une Coupe d'Europe intéressante. Et bien sûr, on attend avec impatience ces matchs, parce que ça reste quand même les France-Nouvelle-Zélande, ça reste quand même le match.
Bah, bien sûr, bien sûr. Merci Gilles, en tout cas. Puis bah, ça ne va pas très bien pour les clubs franciliens quand même. Hein. Le Racing et le Stade français, c'est compliqué cette année.
Oui, et c'est compliqué. Puis alors, au-delà du plan sportif, ça serait catastrophique pour le rugby francilien s'il n'y avait pas de club en top 14. Il faut absolument qu'au moins un des deux, bon, avec bien sûr, en tant que francilien, je préférerais que ça soit les deux, mais on a besoin de ces clubs-là. Et il faut qu'ils se rendent compte, bon, je suis sûr qu'ils en sont conscients, mais on a besoin de ces locomotives, on a besoin, parce que c'est quand même la vitrine du rugby francilien, et puis du rugby français, mais nous, en tout cas, petit club formateur qu'alimentons de temps en temps maintenant, plus autant qu'avant, mais de temps en temps, je veux dire, ces clubs-là, on a besoin de ces clubs références, et c'est des repères, c'est un peu des phares dans... Et ça donne de l'ambition aux gamins d'un jour, peut-être, pourquoi pas, jouer au Stade français ou au Racing.
Bien sûr.
Donc, on a besoin d'eux. Donc, on sera derrière eux jusqu'à la fin de la saison.
Très bien. Merci, Gilles. À très bientôt. Merci hein,
allez,
d'être intervenu. Oui, merci. Voilà. Allez, donc, Alexandre, tu vas nous donner eh bien, les résultats de cette dernière journée et le classement final de ce tournoi 2025.
C'est ça. Donc, on a eu droit, logiquement, à la victoire de l'équipe de France contre l'Écosse 35-16. Quelques heures plus tôt, l'Irlande gagnait 22-17 contre l'Italie et l'Angleterre gagnait contre le Pays de Galles 68-14. Classement final, donc la France première avec 21 points, l'Angleterre deuxième avec 20 points, l'Irlande troisième avec 19 points, l'Écosse quatrième 11 points, l'Italie cinquième 5 points et le Pays de Galles sixième avec 3 points.
Cuillère de bois, hein, comme le disait notre...
Le Pays de Galles, c'était très difficile, ils ont pris des scores à tous les matchs.
Ouais. Le rugby, vous aimez aussi, et puis ça fait des audiences télé. Hein. Et alors le pire, c'est que ça fait plus que le foot maintenant.
Ouais, le rugby, ça réunit 10 millions. C'est incroyable. Ouais. Non, le rugby, c'est magnifique, c'est un super sport. On s'ennuie jamais avec le rugby. Autant un match de foot un peu moyen, on peut s'ennuyer. Un match de rugby, je trouve qu'il se passe toujours quelque chose.
Il y a des matchs de rugby des fois aussi où il se passe
Il y a toujours quelques essais, il y a toujours quelques beaux plaquages. Le rugby, c'est magnifique.
Très bien. Allez, autre sport, hein, on parle de tous les sports sur notre antenne. Est-ce que vous aimez le vélo? Pas trop.
J'aime beaucoup le vélo aussi. Ouais.
Il y a le Tour de France.
J'adore ça.
Le Alors, il y avait quand même bien, le Paris-Nice cycliste qui ouvrait les hostilités donc, de la saison cycliste. Hein. C'était dans le département des Yvelines, un département cher au sport cycliste. Alors, Alexandre, tu vas d'abord nous rappeler les vainqueurs d'étape et puis le classement.
C'est ça. Donc, le Belge Tim Merlier avait remporté les deux premières étapes.
Ouais. Alors, tiens, vas-y.
Ouais, l'étape 3 par équipe avait été remportée par la team américaine Visma Lease a Bike. L'étape 4 par Joao Almeida. L'étape 5, seule victoire française, signée Lenny Martinez. L'étape 6 par Mats Pedersen. L'étape 7 par Michael Storer. Et l'étape 8 par Magnus Sheffield.
Ouais. Et le vainqueur final, donc c'est celui de l'année dernière, c'est Jorgensen,
l'Américain. Matteo Jorgensen qui a gagné cette édition en 26h, 26 minutes et 42 secondes. Suivi par Florian Lipovitz et l'Allemand Timen Arensmann.
Oui, alors on va rappeler que Vingegaard, qui était, je veux dire, le favori, a abandonné, il est tombé, je crois qu'il a des petits problèmes à la main, et il était contraint donc à l'abandon.
Et il faut souligner aussi le seul Français du top 10, c'est Clément Champoussin, qui a terminé 7e.
Alors on va justement écouter Arnaud Démare, qu'on a rencontré sur la ligne d'arrivée. C'était juste après cette première étape. Arnaud Démare, il a terminé 2e, assez nettement battu quand même par le Belge Tim Merlier. On écoute, on a recueilli ses confidences donc sur la ligne d'arrivée.
Et puis le dernier tiers de course, c'est vrai que c'était assez nerveux, on s'y attendait, on savait que ça allait bouger dans le final, que ça allait attaquer. Et c'est ce qui s'est passé, et malgré tout un peu de surprise sur le haut là, quand il y en a trois qui partent. Et voilà, après le sprint, un peu déçu, en même temps j'ai pris la bonne vague à un moment là, pour remonter sur la droite, j'avais la force pour remonter, mais il manque encore quelque chose.
Oui, surtout que ça vous rappelle de bons souvenirs cette première étape de Paris.
Ouais, bah oui, maintenant ça remonte. Hein. La dernière fois que j'ai gagné sur Paris-Nice, c'était 2018. Donc maintenant, oui, ça remonte, mais c'est sûr qu'on garde toujours des bonnes ondes ici. Ouais.
Peut-être demain ?
Peut-être demain, ouais, voilà. On va essayer.
Voilà, on lui avait demandé comment s'était passée sa journée. Donc deuxième, malheureusement, le lendemain, ça s'est moins bien passé. Il termine septième donc, avec Merlier qui ont dit donc à regagner cette deuxième étape. Alors, il y avait un Français aussi, c'était Guillaume Martin, hein, qu'on connaît bien sur les routes du Tour de France. Alors, il a un club de supporters, Guillaume Martin, vous allez voir. Et on a interviewé un de ses représentants. Il vient de Normandie, c'est Claude. Il nous parle donc de ce coureur assez atypique parce qu'il n'est pas que coureur cycliste. Il écrit des bouquins aussi, Guillaume Martin. Allez, je suis avec Claude, un des responsables donc, du club des supporters de Guillaume Martin. Claude, bonjour. Comment ça se passe ici actuellement, ce déplacement au Perret, en Yvelines ?
Ah bah, a priori, ça se passe très bien, il fait beau temps, hein, ouais. Déjà d'une part. Ah, y a une bonne ambiance. Hein, ce qui est, et on a eu l'occasion déjà de ce matin de voir notre ami Guillaume, qui ouais. A priori est en forme pour ce départ.
Alors, vous venez de Normandie, hein, parce vient, que c'est la qu'habite Guillaume.
C'est là qu'habite Guillaume. D'ailleurs, le Tour de France passera... au coin de sa porte au mois de juillet. On a l'habitude, nous, chaque année, on est à trois. Et donc, c'est-à-dire moi, Claude, j'ai aussi ma femme et puis Didier qui est ici présent, à suivre le Tour de France. Hein. On fait systématiquement une douzaine d'étapes du Tour de France. Hein. Donc, on a un petit peu l'habitude de se positionner déjà avec notre camping-car.
Alors, comment est venu cet amour pour Guillaume ? Comment c'est arrivé ?
Ben, c'est-à-dire que Guillaume était minime quand on a connu, nous, ma femme étant fleuriste, on sponsorisait le club de Condé-sur-Noireau où il était. Et on l'a connu tout jeune. Et on a connu donc. Et quand il est passé amateur, il y a le président du club de Condé-sur-Noireau qui a dit on va monter le club des supporters, ce qui a été fait. Et on a une centaine d'adhérents. On se fait des réunions régulièrement. Hein. Ça se passe très bien. Et
vous le suivez à toutes les courses, pratiquement toute la saison française ?
Toute la saison, bon là on sera comme on parie comme en vert, puis après on sera donc le Tour de France passant à Sainte-Honorine. C'est un gros avantage qu'on a cette année. Donc on est super motivé. On va faire un grand truc à Sainte-Honorine-la-Chardon avec la municipalité hein, qui va, elle, s'investir également et toutes les communes aux alentours. Hein. Donc ça sera une grande fête hein, déjà aujourd'hui.
Alors parlez-nous un peu de lui. Comment est-il, Guillaume, dans la vie de tous les jours ?
Guillaume, dans la vie de tous les jours, c'est Guillaume. Hein, c'est-à-dire que c'est... C'est un bon coureur, mais enfin en tant que citoyen, il fait vivre sa commune puisqu'il a investi beaucoup dans sa commune, c'est-à-dire dans un manoir qu'il a mis en place. Et il est très réservé. Hein. Maintenant, il commence déjà à plus à le connaître, mais les quelques tours de France qu'on faisait auparavant, Guillaume n'était pas médiatiquement connu. Aujourd'hui, on en a vu ce matin à son cas, tout le monde est en train de demander les signatures. Hein. Non, il est très réservé, hein, très près des gens, malgré tout. Hein. Et puis bon, comme vous le savez, hein, il a d'autres passions que le vélo.
L'écriture notamment.
L'écriture, hein, il écrit des livres. Donc là aussi, hein, il est quand même très, très pris, hein, puisque effectivement. Et aujourd'hui, il a rejoint la Française des Jeux. C'était une équipe qu'il avait connue, qui malheureusement n'avait pas pris en tant que professionnel dès le départ. Mais là, compte tenu de son changement, là, il est arrivé là à la Française des Jeux. Et il semble très bien entouré, un petit peu plus qu'à Coppinich, qu'on ne peut pas dénigrer parce qu'ils ont fait le nécessaire aussi. Hein, il a eu des bons. Là, il a un petit souci aujourd'hui de tendinite, il me semble, un petit peu. Mais il est très en forme. On l'a vu déjà dans ses premiers classements et avec une équipe qui paraît très soudée.
Et votre rêve, c'est qu'il gagne un jour une étape du Tour. Quoi. Ce serait fabuleux. Ce serait, pour vous, le club des supporters, ce serait merveilleux.
On regarde. Moi, personnellement, une étape du Tour, c'est une chose. Mais si, effectivement, il est...
Champion de France, pourquoi pas ?
Oui, champion de France, oui, à la limite. Mais une étape du Tour, oui, c'est son but aussi. Mais quand on veut faire le classement général, il y a très peu de chances de pouvoir faire une échappée. Hein. Vous le savez fort bien si vous suivez le vélo. Donc, envisager une étape du Tour, il faudrait être 20e ou 30e au classement général. Là, il peut partir, personne n'ira le chercher. Hein, c'est arrivé une fois, il était 20e, hein, il est échappé. Hein, malheureusement, il n'avait pas gagné l'étape, il était 2e, je crois. Et il s'est retrouvé 2e au classement général. Là, il n'était plus question de repartir le lendemain. Hein.
Et quels sont ses rapports avec vous, avec vos clubs de supporters? Il doit être comblé, honoré comme même.
Ah, là, ce matin, quand il voit les pancartes, il vient nous dire bonjour, bien entendu. Nous, on peut dire qu'on l'a fait un petit peu connaître sur les départs, puisqu'on avait le club des supporters avait fait des affiches que vous voyez partout là, qu'on met. Ah, le club des supporters avait fait des petites cartes. De petites cartes et qu'on distribuait aux gens, et puis quand ils passaient comme demain, on sera certainement pas tout à fait au podium, parce que quand ils partent du podium, ils font 100 mètres, et on est à 100 mètres du podium, et là ils arrêtent et puis ils signent les cartes qu'on a distribuées, et là c'est très apprécié, hein. Mais il est très près des gens, hein. Très près des gens. Nous, dès qu'il a un temps de libre, on fait des soirées du club, quoi, hein, avec une animation. C'est un enfant du pays. Hein, ouais.
Et donc, si certains, en dehors de la Normandie, veulent rejoindre votre club de supporters pour aller l'encourager sur le bord des routes, que font-ils? Vous avez un site internet?
Oui, on a un site internet, le club des supporters, Guillaume Martin. Hein, ils peuvent effectivement adhérer. On en a en dehors de Normandie, en dehors de notre club, on en a déjà. Ah, et là, comme au Tour de France, on préconisera de nous, avec le club, on a vu ça hier ou avant-hier, je ne me rappelle plus, d'avertir sur le club des supporters qu'on sera à tel endroit, hein, aux arrivées de tel endroit, pour pouvoir que les gens viennent nous voir éventuellement. Hein. Et effectivement, ça sera une façon de. Mais déjà, avoir une centaine de et en dehors des adhérents, il y a aussi les sympathisants. Comme vous savez, comme dans toute association, c'est assez difficile. Mais effectivement, il est. Et là, on va faire un grand truc avec la mairie pour le Tour de France. Hein.
Très bien. Bah, écoutez, merci. Bonne journée.
Allez, bonne journée. Puis peut-être. Non, on sera demain, on sera au départ. Hein.
Voilà, ils ont suivi Guillaume Martin pendant tout ce Paris-Nice. C'est sympa, ces clubs de supporters. Ils terminent 13e. Hein,
13e, 36 secondes derrière l'autre Français, FDJ, Aurélien Paré-Peintre. Ouais. Ouais.
Allez, troisième interview, celle de François Pervy, qui est un ancien champion du monde et d'Europe de cyclisme sur piste, hein, dans le kilomètre, sur le Kering et dans la vitesse individuelle. Il avait été aussi médaillé olympique et paralympique aux Jeux de 2016. On va l'écouter. Il a d'autres projets maintenant dans le vélo, mais il était ravi en tout cas d'être parmi les spectateurs passionnés de cette étape du Paris-Nice.
François Pervy,
François, comment vous avez vécu cette première étape du Paris-Nice?
Alors moi, je l'ai vécu en inside avec la FDJ, Groupama FDJ, puisque... je me suis entre guillemets fait inviter par les copains parce que j'habite tout proche, donc j'ai suivi l'étape. On a coupé un petit peu à travers la campagne pour voir passer les coureurs avec les invités de la Française des Jeux, et j'ai passé une très belle journée. J'aurais souhaité un peu plus de vent pour voir des belles bordures, parce que c'est souvent propre à Paris-Nice. Et puis bon, voilà, une arrivée au sprint.
J'allais dire presque classique pour une première étape. Hein.
Ouais, voilà, presque classique. De toute façon, on savait que ça allait arriver au sprint. Hein. Il n'y avait pas assez de difficultés en fin de circuit pour faire des différences. Et puis bon, voilà, les coureurs sont rentrés. Et puis on profite un peu de l'ambiance et de l'atmosphère du paddock. C'est vraiment sympa. Ouais.
Entre nous, vous auriez aimé être quand même sur le vélo, malgré tout?
Bah oui, en tant que cycliste, moi j'ai été sprinter sur piste. Quand j'étais petit, forcément, j'ai rêvé d'être pro sur route avant de devenir pistard. Donc là, oui, j'ai toujours cette passion pour le cyclisme sur route, et j'aurais bien aimé vivre ça.
Ouais. Bon, maintenant, la suite, c'est quoi pour vous maintenant dans le vélo?
Alors moi, là, cette année, je repars pour tenter de battre un record du monde de vitesse maximale en vélo couché caréné. Donc ça se passe au mois de septembre dans le désert du Nevada. J'ai une grande ligne droite de 8 km toute plate, et je vais être dans mon vélo couché qui ressemble à une amande géante, pour avoir une petite image. Et donc le record du monde pour l'instant, c'est 144 km/h sur du plat, hein, à la seule force de l'homme. Donc je m'entraîne pour ça tous les jours.
C'est vraiment des nouveaux défis, quoi, qui n'ont rien à voir avec la piste.
Ah oui, ça n'a rien à voir avec la piste, hein. Là, c'est un effort de 5 minutes à bloc, vraiment à bloc. Alors que sur piste, j'étais entre 10 secondes et 1 minute. Donc je m'entraîne en conséquence. J'ai déjà fait deux tentatives en 2022 et 2023. J'ai pris de l'expérience et maintenant je travaille un peu mieux encore sur mon effort, sur ma gestion d'effort et sur mes plans d'entraînement. Donc j'espère que cette année je vais vraiment le battre parce que je suis vraiment tout proche.
D'accord, et on vous reverra quand même dans les courses inside, peut-être dans le Tour de France.
Alors sur le Tour de France, j'ai la chance d'être le chauffeur des VIP de l'équipe Cofidis. Donc j'ai déjà fait deux fois en 2022 et 2023. Donc cette année, j'y retourne. Donc ça, c'est génial parce que je vis le Tour de France de l'intérieur. Pour un fan et un passionné de cyclisme comme moi, c'est un rêve éveillé.
Très bien. Merci François. À très bientôt.
Avec plaisir.
En tout cas, on lui souhaite bonne chance pour ses nouveaux défis. Allez, un local de l'étape, Sandy Cazard, qui certes maintenant ne court plus, mais qui est l'ambassadeur et le conducteur pour ASO sur le Tour de France, lui aussi ravi naturellement d'être de la fête. Avec Sandy Cazard. Sandy, comment avez-vous trouvé cette première étape?
C'est une étape classique, hein, avec une échappée dès le départ qui est partie tout de suite et le peloton l'a laissé partir. Bon, encore une fois, ils n'ont vraiment pas voulu jouer du tout puisqu'ils sont revenus déjà pour moi très tôt. Ils n'ont jamais laissé plus de 2 minutes 30. Pour nous, on va dire, dans les voitures invitées, c'est pas toujours le meilleur. Mais bon, dans le final, bon, ça s'attendait à des... un sprint massif et moi ce qui m'a plu c'est quand même que même si on savait que ça allait être compliqué de sortir dans le final, il y en a quelques-uns qui ont essayé. Il y a eu des attaques, ça c'est pas resté, je pense, comme à la Française des Jeux qui ont essayé plusieurs fois. Voilà, il y a ceux qui n'avaient pas le sprinter ont quand même ont tenté, on n'a pas juste attendu le final.
Bon, ce sont des routes que vous connaissez bien, hein.
Oui, c'est des routes qu'on connaissait bien. Hein. Oui, bon, après, voilà. Même si c'est des bonnes ascensions pour tout le monde, même aujourd'hui, moi, pour moi, c'est des côtes, hein, des grimpeurs. C'est vrai que quand on est professionnel, bon, on voit ça plus que, je ne vais pas dire un faux plat, mais c'est un peu moins difficile parce que c'est l'entraînement. Mais il y avait de quoi faire. Il manquait par rapport à ce parcours-là pour avoir, on ne va pas dire une belle course, c'est pas vrai, mais parce qu'on en a une belle. Mais. Avoir du mouvement, avoir peut-être un peu de suspense, c'est du vent. Il est en train d'arriver pour demain, je pense.
Alors justement, comment vous le voyez, ce Paris-Nice, une domination peut-être des Visma, Jumbo, en prévision, Jorgensen, Vingegaard?
Ouais, non, il y a du beau monde derrière. Hein. Je pense à Yuzo aussi. Ils vont pas dominer. Hein. Moi, ce que je vois surtout, c'est par rapport au parcours. On dit toujours que c'est toujours plus dur. Mais là, quand même, on a la Colmiane, on a les deux derniers jours, on a trois arrivés au sommet. Oui, c'est un avantage à Vingegaard, hein, mais c'est un avantage les grimpeurs. Par rapport peut-être aux autres années où il y avait un peu plus d'étapes un peu casse-pattes, piégeuses, avec peut-être des bordures. Cette année, on en aura, hein, mais le vent et la météo n'est peut-être pas avec nous. Mais moi, ce que je vois, c'est vraiment... Les trois derniers jours qui sont très durs.
Ouais, et puis Paris-Nice, hein, c'est le premier grand rendez-vous. Hein.
C'est le premier rendez-vous.
C'est vraiment la saison qui se lance. Hein.
C'est la saison qui se lance, mais en règle générale, des fois, le suspense se faisait jusqu'au dernier jour. On l'aura peut-être encore cette année, mais je me dis que c'est plus dur quand même avant et les écarts sont plus importants.
D'accord, merci Sandy. Voilà, merci à Sandy Cazard. Vingegaard, lui, a été contraint à l'abandon et finalement, il n'y a pas eu trop de difficultés pour l'Américain Jorgensen. On va finir avec le maire du Perret en Yvelines, donc Geoffroy Bax de Ketting, tout naturellement ravi et aux anges d'accueillir donc cette première étape du Paris-Nice. Allez, je suis avec donc le maire du Perret. Je suppose que vous êtes un maire heureux, joyeux aujourd'hui après une telle journée.
Ah ben bien sûr, c'est une journée exceptionnelle d'avoir accueilli la première étape du Paris-Nice pour une ville qui a été à la fois le départ et l'arrivée. Une arrivée intense avec un détachement sur la fin. Donc que du bonheur, une vraie réussite à la fois en termes d'organisation, mais une réussite sportive. Donc un maire heureux.
Oui, on a vu une ville complètement mobilisée. Hein.
Ah, complètement. Vous avez vu tant les habitants qui sont venus en masse pour venir assister à ce grand moment sportif. Et puis, il y a eu les associations, les commerçants, de nombreux bénévoles qui ont participé. Toute la municipalité s'est mise en ordre de marche pour faire de cet événement une réussite. Et donc, Paris gagnant.
Et puis demain, donc, on remet ça?
Pardon, j'ai pas entendu.
Demain, on remet ça?
Ah bah, demain, on remet ça. Alors, c'est un petit passage. C'est vrai qu'avec ce qu'on a eu ce week-end, ça va se prolonger. Le bonheur va se prolonger encore demain avec un passage de la deuxième étape.
Alors, il y avait Paris-Nice. Est-ce que ça donne pas des idées pour autre chose? Une étape du Tour, par exemple?
Oh bah, redescendons de notre petit nuage. Et puis, nous, on est très ouverts. On est une ville, de toute façon, qui est toujours dynamique, qui ne rechigne pas pour faire des événements, pour mettre en œuvre de grandes organisations. Donc nous, on est ouverts à tout et on sera toujours moteur pour faire de beaux moments sportifs dans notre commune.
Oui, et puis terre des Yvelines, hein, le vélo.
Évidemment, et puis particulièrement au Péray-en-Yvelines et dans le sud de ce département, puisque nous sommes entourés de paysages magnifiques, de forêts qui sont propices aux balades et on a de grands amateurs de cyclistes. Merci beaucoup.
Voilà, effectivement, c'est une belle histoire d'amour entre ce département des Yvelines et le vélo. Allez, la deuxième pause musicale, ensuite le ballon rond. Vous voyez, ça se bouscule. Hein,
c'est magnifique, c'est bien. C'est varié.
Allez,
c'est super.
On y va. La musique. Tonight, we gonna groove tonight. Voilà, cette émission, bah, vous pourrez la réécouter en podcast, hein, comme toutes les émissions des semaines et des mois précédents, et notamment l'émission qui avait été consacrée la semaine dernière à l'Handisport. On retrouve notre ami Stéphane Desenclos. Bonsoir Stéphane.
Bonsoir Philippe, bonsoir à toutes et à tous.
Bon, bah ça y est, ils l'ont fait Stéphane, le Paris Saint-Germain.
Bah oui, on en avait parlé. Hein.
Ah ouais, ils l'ont fait, ils l'ont fait.
T'étais pas très confiant, moi je t'ai dit qu'il pouvait le faire.
Non, il y avait quand même des mauvaises habitudes qui avaient été prises, à l'exception du match contre Barcelone, hein, où Paris Saint-Germain avait été battu au match aller 3-2 avant de renverser la session 4-1. Malheureusement, à chaque fois que PSG était dans une position défavorable, Paris Saint-Germain n'arrivait pas à renverser la situation. C'était le cas en 2013 contre Barcelone, 2016 ou 2021 Manchester City, le Real en 2018, le Bayern en 2023 ou Dortmund en 2024, mais cette fois-ci, ils l'ont fait. Donc, ça veut dire que c'est une équipe qui a sûrement franchi un palier dans un match référence.
Oui, tout à fait, bien sûr. Ouais. Puis, c'était dans un match référence. Et puis, voilà, oui, il y a un peu désinhibé, effectivement, parce qu'on savait qu'elle était capable. Bon, après, elle n'était pas non plus. Les autres années, elle affichait pas vraiment ce niveau-là. Mais voilà. Ce niveau-là, c'est sûr que. Après, il y avait que la force mentale qui pouvait éventuellement la perturber, ça n'a pas été le cas.
Oui, et on a le sentiment que, comme pour le rugby, c'est un collectif. Hein. C'est un collectif, cette équipe.
Hein. Ouais, bah oui, tout à fait, oui. Un collectif, et puis, exactement. Bah, de toute façon, une équipe, c'est une équipe, hein, le mot, il est.
Oui, mais c'était des reproches qui étaient faits certaines années, qu'il y avait certains joueurs qui ne défendaient pas dans le passé. Là, on voit même un Varaskalia qui vient défendre sur sa ligne, quoi.
Ouais, tout à fait. Non, mais c'est... On a déjà discuté ici, on peut le dire et le redire. Moi, d'un point de vue personnel, ça fait longtemps que je dis que ça va être un très bon Paris Saint-Germain, que c'est effectivement une équipe collective. Alors, le collectif, ça veut dire que le collectif, il faut du temps aussi à le mettre en place, parce que quand vous avez c'est la différence avec des individualités. On se rappelle par exemple du Paris Saint-Germain 2022-2023. Qui avait commencé avec des chiffres records, des matchs exceptionnels et tout, portés par Messi et Neymar notamment, avant la Coupe du Monde. Et après, ça a été quand vous n'avez pas de collectif, vous dépendez des individualités. Alors, quelque part, c'est presque plus facile d'avoir, quand vous avez des très grands joueurs, des grands joueurs au sommet. C'est par exemple un petit peu ce qui arrive aujourd'hui au Real Madrid, quoi. C'est le Real Madrid, ils sont en tête ou deuxième en Liga, ils sont en Ligue des Champions en quart de finale, mais ils ont un peu de mal quand même à trouver un collectif, quoi. Donc,
plus sur les individualités, quoi. Voilà.
Voilà, exactement. Ouais, ouais. Et donc quand tu as un collectif, tu es plus à l'abri, quand même, tu es quand même plus à l'abri des défaillances. Maintenant, c'est clair que ça n'empêche pas d'avoir quand même. Des joueurs qui sont très importants, comme par exemple, bien sûr, Ousmane Dembélé, qui est un joueur très, très important dans cette équipe, Vitinha, Yann Pacho, qui sont des joueurs qui sont très importants, quoi. Mais c'est vrai que le collectif prime sur tout le reste, quoi.
Voilà. Alors, on va rappeler, hein, c'est la première équipe française à gagner à Liverpool en match à élimination directe, hein, parce qu'en face de poule, Lyon et Marseille l'avaient fait dans le passé. Donc, victoire 1-0 après prolongation, séance de tir au but, victoire du Paris Saint-Germain 4-1 après un match aller perdu 1-0. Et le PSG qui va jouer Aston Villa qui s'est largement imposé donc, contre Bruges 3-0 après avoir gagné le match aller 3-1. J'allais dire, faut faire attention quand même, il ne faudrait pas retomber dans les mauvais travers.
Ah, bien sûr qu'il faut faire attention. Bien sûr qu'il faut faire attention, mais moi, point personnellement, je ne pense pas que le Paris Saint-Germain va retomber dans ses travers, parce que là, ça fait quand même un certain nombre de matchs, hein, que ce soit en Coupe d'Europe ou même aussi en championnat. Hein, on aurait pu penser des matchs comme par exemple le Classico hier ou des choses comme ça, que le Paris Saint-Germain était aussi quand même un petit peu vulnérable. Mais après, on sait quand même le foot. Hein, Aston Villa, c'est une bonne équipe. Oui. C'est bien renforcé quand même au mois de janvier, là, pendant le Mercato. C'est une bonne équipe qui a l'habitude, qui a un bon entraîneur habitué à l'Europe. Le match retour aura lieu là-bas. Donc, tout peut arriver. Hein, dans le foot, tout peut arriver. Maintenant, Paris, Paris est favori, c'est évident, Paris est favori, mais en foot, tout peut arriver. Quoi.
Oui. Alors par contre, déception pour Lille, Stéphane. Hein, Lille qui avait fait le nul à Dortmund 1-1 et Lille qui a quand même raté son match contre Dortmund battu 2-1. On attendait un petit peu mieux des Lillois quand même. Hein.
On attendait mieux mais moi, d'un point personnellement, je l'ai senti très vite que ça allait être compliqué pour le Lillois avant même le match. Parce qu'en fait, c'est vrai que c'est facile à dire, mais quand vous voyez, par exemple, c'est facile à faire parce que ce n'est pas les mêmes effectifs, mais moi, j'ai été choqué, très choqué par une chose, c'est la préparation du match mentalement entre le Paris Saint-Germain et Lille, par exemple. Même si, effectivement, les effectifs ne sont pas les mêmes, on peut considérer que battre Dortmund à domicile, c'est pas forcément plus difficile que d'aller gagner à Anfield, quoi. Et puis avant le match, on avait un entraîneur comme Luis Enrique qui disait « Vous allez voir, on va gagner. Tous les joueurs, on y va, on va là-bas pour gagner. On va pour gagner. Ça sera la première fois qu'un club français en match élimination direct gagnera à Liverpool. » Et puis, la conférence de presse de Genesio, c'était « Il ne faut quand même pas oublier que c'est les finalistes de l'année dernière, que c'est une grosse équipe, qu'ils sont habitués à jouer, ceci et cela. » Et on a senti que le discours aurait peut-être dû être ouais, « on a fait un très bon résultat là-bas. C'est vrai que ça nous met en bonne position pour se qualifier et d'y croire un peu plus. » Et puis finalement… quand on a regardé ce qui s'est passé sur le terrain, c'est exactement pour moi tout ce qui s'est passé en conférence de presse. Ils ont tout de suite abdiqué quasiment les Lillois.
Ouais.
Ils n'ont pas joué, quoi.
Ouais, donc l'aventure s'arrête là pour eux. Et Dortmund eh bien, affrontera Barcelone. Barcelone qui s'est donc imposé assez facilement contre Benfica 3-1 après avoir gagné le match aller donc chez les Portugais 1-0. Et puis les autres quarts de finale, ça sera effectivement le Real Madrid qui s'est imposé au tir au but une nouvelle fois, comme Manchester City, hein, je veux dire, les destins des champions. Donc le Real Madrid qui bat l'Atlético 2-1 et l'Atlético qui avait gagné le match retour 1-0 après prolongation, mais qui est battu 4-2 au tir au but. C'est vrai, et ils affronteront donc Arsenal, net vainqueur du PSV Eindhoven au match aller 7-1 et qui a concédé le nul à domicile 2-2. J'allais dire qu'ils ont ce destin de champion à chaque fois, le Real. Ça passe souvent ric-rac.
Ça passe ric-rac. Alors là, c'était très, très ric-rac, effectivement, là. Contre l'Atlético. De toute façon, l'Atlético, quelle que soit l'équipe, souvent, ça passe toujours très ric-rac. Hein,
ce n'est pas une équipe facile à jouer. Ce n'est pas une équipe facile à jouer.
Non, ce n'est pas une équipe facile à jouer. Et puis, moi, je ne suis absolument pas du tout un fan de Diego Simeone, sa façon de faire jouer son équipe, sa philosophie de jeu et tout. Je pense qu'ils n'arriveront jamais quasiment à regagner une grande compétition en jouant comme ça. Et donc finalement, pour le foot, moi je suis content quand même que ça soit le Real Madrid qui soit passé. Mais ça vraiment, alors là pour le coup, ça s'est joué.
Au tir au but.
C'est peu de le dire. Hein, c'est peu de le dire. Par rapport au pénalty, la règle, cette règle cruelle à des deux touches et tout qui a condamné les joueurs de l'Atlético, c'est vrai que c'est très 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 limite, quoi. C'est passé de toute justesse dans un petit trou de souris, quoi.
Oui. Et le dernier quart de finale, donc ça sera Bayern de Munich contre l'Inter de Milan. Bayern qui a largement battu les Leverkusen, hein, qui n'étaient pas du niveau de la saison dernière. Les Leverkusen qui avaient perdu le match aller 3-0 et qui a été battu au match retour à domicile 2-0. Et ils affronteront, attention, l'Inter de Milan, vainqueur à Feyenoord 2-0. Et l'Inter qui a gagné également son match retour à domicile 2-1. Et puis Lyon qui poursuit l'aventure, puisque les Lyonnais, on le savait, hein, ils avaient pris déjà une belle option après la victoire au match aller contre Bucarest, hein, 3-1. Ils ont une nouvelle fois donc confirmé ce succès, 4-0. Ils vont jouer Manchester United, décidément. On retrouve les Anglais, hein, sur nos chemins, mais tout est possible, hein, dans cette phase de Ligue Europa.
L'argent, ouais. ça sent bon parce que ça ressemble à une grande équipe, ça a le nom d'une grande équipe, mais en fait, c'est très loin d'être une grande équipe cette saison, ouais. Manchester. Donc, même en Ligue Europa, hein, on ne peut pas dire qu'ils sont transcendés par... pas à Ligue Europa, parce que même en Ligue Europa, ils ont du mal. Hein, le match contre la Real Sociedad, ça a finalement tourné assez largement en leur faveur, mais bon, c'était pas gagné, quoi. Donc, non, ils sont très, très, très laborieux. Ça a tout de l'exploit, de ce qui va être présenté comme un exploit, mais qui n'en sera pas forcément être, parce que moi, je pense que sur le papier, Lyon mérite de passer contre Manchester. Hein. Ils ont largement leur chance.
Ouais. Allez, la Ligue 1, donc, c'était aussi classico. Et donc, là, il n'y a pas eu de suspense non plus. Le PSG s'est imposé devant Marseille 3-1. Il y a quand même des équipes qui laissent un peu des plumes hein, dans cette journée de championnat, dans cette 26e journée. À l'image de Nice, qui a concédé le nul à domicile 1-1. Et puis Lille, qui a été également donc, battu à Nantes 1-0. Les autres résultats, par contre, Monaco s'est refait une petite santé en gagnant à Angers 2-0. Victoire de Lens devant Rennes 1-0. Lyon qui bat le Havre 4-2. Strasbourg qui bat Toulouse 2-1. Et puis nul entre Brest et Reims 0-0. Sans oublier effectivement ce match arrêté alors que Saint-Etienne menait 2-0. Et à Montpellier, je pense que c'est un match qui va définitivement sceller le sort des Montpelliérains. Donc le Paris Saint-Germain, 19 points d'avance maintenant avec 68. Devant Marseille, deuxième 49. Troisième Monaco et Lille à égalité, même au goal average. Hein, puis c'est plus le 19 pour les deux équipes avec 47 points. Cinquième Lyon, 45. Et sixième Lille, 44. Et puis en bas de tableau, Reims est 15e avec 23 points. 16e Le Havre, 21 points. 17e Saint-Etienne, 20 points. Et 18e, donc Montpellier, déjà condamné, 15 points.
Ouais, tout à fait. Montpellier, c'est un peu un truc de fou. Parce que justement, cet après-midi, je travaillais un petit peu sur justement, je regardais un petit peu cette fin de saison. Et je ne sais pas ce que va donner ce fameux match. Enfin, le problème, c'est plus l'état d'esprit qui a l'air complètement lâché. Là, on a vu les déclarations de Jean-Luc Gasset qui est complètement abattu et tout. Donc, c'est vrai que c'est ça qui est compliqué parce que si on regarde dans les 8 derniers matchs, par exemple, là, qui restent, Montpellier vont jouer Le Havre, Reims et Saint-Etienne, je crois. Non, dans Saint-Etienne, c'était hier. Donc, et une troisième, quoi. Reims, Le Havre et bref, quoi. Un parcours finalement. Qui pourraient être à leur portée, quoi, si, parce qu'ils ont quand même une équipe, je pense, qui est assez intéressante. Il y a un problème, d'état d'esprit, de mentalité, avec ce qui s'est passé hier. Alors, avec sûrement, j'avoue, je suis un peu.
Ça sera sûrement un match qui sera joué à la 63e minute à huis clos. Voilà, je pense qu'on s'oriente vers ça.
Hein. Si c'est ça, par exemple, Saint-Etienne, faut pas oublier que Saint-Etienne est à 10. Le problème, c'est vraiment effectivement un problème mental parce que une demi-heure pour mettre deux buts à Saint-Etienne, je pense qu'ils sont tout à fait en mesure de le faire. Quoi. Ouais.
On verra ça mercredi en tout cas. La Ligue 2, Stéphane, où le Paris FC là, a été battu 3-0 hein, par Laval, la victoire de Metz 3-2 à Dunkerque qui avait quand même donc été battu lundi dernier assez sèchement par Rodez 5-1, donc Dunkerque a perdu beaucoup de points dans cette dernière journée, victoire de Lorient devant Bastia 4-0, et puis on va noter quand même que le Restart a été battu à Ajaccio 2-1, et puis en Guingamp qui va gagner à 3 1-0 et nul entre Annecy et Rodez 1-1, donc pour l'instant le Paris FC sont barragistes maintenant, hein, 3e.
Ils sont barragistes, ils sont en train un petit peu de craquer, quoi. Dur parce que là l'équipe qui revient très fort quand même là, c'est quand même Metz hein, sur les 5 dernières journées là, c'est la meilleure équipe de Ligue 2.
Et Dunkerque aussi hein, qui a un petit passage difficile.
Ouais, Dunkerque c'est plus prévisible quoi. Je veux dire Dunkerque, si Dunkerque joue les playoffs là avec termine dans les 5 premiers, je pense que ça sera très bien. Ils auraient très probablement signé les deux mains en début de saison, je pense quoi. Non, la grosse déception c'est effectivement quoi pour l'instant en tout cas. C'est le Paris FC, quoi. Alors, à moins qu'ils nous fassent un coup, qu'ils parviennent à remonter par l'intermédiaire des barrages. Mais c'est sûr que Metz et Lorient, ça va être difficile d'aller chercher maintenant.
Alors, on va rappeler Lorient, donc 55, Metz deuxième avec 53 points, le Paris FC troisième, 52. Et puis, pour jouer effectivement les playoffs, quatrième Dunkerque, 48 points, et cinquième Guingamp, 45. Et en bas de tableau, donc le Restart est 14e avec 32 points, Rodez 15e, 31 points. 16e, là il y a un trou, 16e Clermont, 26 points, 17e Martigues, 25 points, et 18e et dernier, donc Caen, avec 19 points. En national, à la 25e journée, bah, le Paris Atlético est exempt, hein, puisque c'est un championnat à 17.
Donc du coup, ils ont perdu les places.
Ouais. Ouais. Donc on va quand même rappeler la défaite de Versailles à Concarneau 4-2. Par contre, Nancy a renoué avec la victoire en s'imposant 4-1 contre Quevilly-Rouen. Orléans, qui donc concède le nul devant Boulogne-sur-Mer, un partout. Et puis Le Mans, qui continue sa bonne dynamique, qui bat Châteauroux 2-0. Du coup, bah, Le Mans, ils sont à la deuxième place avec Boulogne-sur-Mer, avec 41 points, juste derrière Nancy, 45. Et en bas de tableau, bah, Sochaux et Versailles ont 27 points et sont 12e égalité. 14e, Quevilly-Rouen, 26 points. 15e, Nîmes et le Paris Atlético, 24 points. 10, et 17e, Châteauroux, 23 points. Pour l'instant, le Paris Atlético redescendrait.
Ouais, ouais, donc c'est malheureux. Hein. Bon, après, bon, y a encore des matchs.
Oui, ouais, bien sûr.
Ces exemples qui vont passer, mais c'est sûr que c'est une lutte incroyable avec tout ce qu'on sait pas. Quoi. C'est très compliqué de bien malin, ce qui pourra deviner dire qui va monter.
Ouais.
Bon, à Nancy, je pense que c'est quand même pas mal parti. Mais à derrière Nancy qui va monter directement, hein, parce que ça va être ils sont à égalité totale, je crois, Boulogne et Le Mans. Hein. Il y a une différence de but, je crois, qui favorise un petit peu l'équipe du Mans.
Oui, plus 10, c'est plus 8. Plus 10.
Voilà. Ouais. Donc ça, c'est rien, quoi.
Ouais.
C'est rien du tout. Donc ça va être très chaud, je pense, jusqu'à la dernière journée pour savoir ce qu'il en est, ça va être palpitant. Quoi.
Voilà, et puis on finit naturellement avec le championnat féminin, la 17e journée, 0-0 dans le derby francilien entre le Paris Saint-Germain et le Paris FC, 0-0 en série entre Fleury, Mérogis et Dijon, et par contre, large victoire de Lyon devant Reims 8-1. Donc Lyon, les Lyonnaises en tête, maintenant avec 10 points d'avance, 49 points contre 39 au Paris Saint-Germain. Le Paris FC est 3e avec 38 points et Dijon 4e avec 30 points.
Voilà, avec le gros résultat quand même de ce week-end, c'est le match nul ramené par Dijon de Fleury.
Fleury,
hein, Fleury qui était 5e, qui donc devait miser beaucoup sur ce match pour réintégrer le top 4 avant les playoffs, quoi, qui donnera le droit d'aller... aller jouer les playoffs, bah, ils n'ont pas réussi, ça a fait 0-0, donc c'est Dijon qui tient bon et qui est vraiment une équipe très 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 surprenante.
Très bien, merci Stéphane, rendez-vous la semaine prochaine, semaine internationale, hein, avec nos bleus, dès jeudi.
Avec ce duel France-Croatie,
voilà.
C'est quand même intéressant, je trouve, petite parenthèse, quand même,
oui.
On parle de la Ligue des Nations et tout, mais cette idée de quart de finale, elle est quand même bien, parce que là, des fois, ça nous embêtait un peu, ces matchs internationaux et tout. Alors que là,
c'est mieux que les matchs amicaux, ouais.
Ah, et puis, c'est en plus un match aller et trois jours après, le match retour.
Absolument.
Donc, ça crée un petit suspense. C'est assez excitant, quoi.
Très bien. Merci, Stéphane. Rendez-vous la semaine prochaine. Salut. Bye-bye.
Bonne soirée.
Voilà. Et puis, bah, maintenant, après le vélo, le rugby et le foot, on continue avec les autres actus sportives de la semaine.
C'est ça. On commence avec la Formule 1. Puisque la saison est repartie ce week-end avec le Grand Prix d'Australie. Et le premier vainqueur de la saison, c'est Lando Norris avec McLaren. Max Verstappen termine deuxième et George Russell troisième. Lewis Hamilton, pour sa première avec Ferrari, finit dixième. Au classement des constructeurs pour cette première journée, du coup, c'est McLaren et Mercedes qui sont leaders tous les deux avec 27 points. Et Red Bull troisième avec 18 points. En moto, il y avait le Grand Prix d'Argentine ce week-end et c'est une affaire de famille. Puisque Marc Marquez, l'Espagnol, remporte la course, suivi par son frère Alex Marquez. En troisième position, on retrouve l'Italien Morbidelli. Au classement, Marc Marquez est premier avec 74 points. Son frère Alex, deuxième avec 58 points. Et Francesco Bagnaia, troisième avec 43 points. Ducati est premier au classement des constructeurs. En ski alpin, résultat de la Coupe du Monde homme à Agel en Norvège. C'est le Suisse Loïc Meillard qui remporte l'épreuve du slalom en 1 minute 57 et 5 centièmes. Magras et Bressen terminent sur le podium. Au classement général, Marc Odermatt est toujours leader, Henrik Kristoffersen est deuxième et Loïc Meillard justement se hisse à la troisième place. Chez les femmes à Tuiles en Italie, Federica Brignone a remporté l'épreuve du week-end devançant sa compatriote Sofia Goggia et la Française Romane Miradoli. Au classement, Federica Brignone est toujours leader, Gudberami deuxième et Sofia Goggia troisième. En biathlon, résultat de la Coupe du Monde à Pokljuka en Slovénie. Samedi, on a eu droit à deux victoires françaises en mass start. Chez les hommes, c'est Éric Perrault qui a remporté l'épreuve et chez les femmes, c'est Lou Jean Monod. Dimanche, la France a terminé à la deuxième place en relais mixte derrière la Suède. Et en relais mixte simple, la France a terminé quatrième au pied du podium derrière la Suisse, la Suède et la Finlande. En basket, Philippe, on jouait la 29e journée d'Euroleague et le Paris Basket a perdu contre Zalgiris Kaunas 83-81. Pareil pour les deux autres clubs français, Lyon-Villeurbanne qui perd à Fenerbahçe 92-82 et Monaco qui perd contre le Maccabi Tel Aviv 91-88. Au classement, Monaco reste à la 4e place, Paris reste à la 8e place et Lyon-Villeurbanne reste aussi à la 15e place. Sinon, ce week-end, on jouait les demi-finales de Coupe de France et Le Mans décroche son ticket pour la finale en battant Monaco 102-99. Et Paris aussi se qualifie en battant Bourg-en-Bresse 99-91. Rendez-vous donc le 16 avril à l'Accor Arena pour la finale de la Coupe de France entre Paris et Le Mans. Handball, l'équipe de France affrontait le Danemark en double confrontation cette semaine dans le cadre de la EHF Eurocup. Et victoire de nos Bleus lors des deux matchs, mercredi 33-32 et hier 40-38. Au classement, la France est première avec 8 points, le Danemark deuxième avec 4 points, la Suède troisième avec 4 points et la Norvège quatrième avec 0 points. Chez les femmes, on joué la 16e journée de championnat. Le Paris 92 a perdu contre Saint-Amand 23-22. Le club francilien se place désormais à la 8e place. Et on termine ce journal des sports avec, comme d'habitude, le volley et l'avant-dernière journée de championnat. Le Plessis-Robinson perd face à Poitiers 3-0 et Paris perd aussi contre Saint-Nazaire 3-1. Au classement, le Plessis est dernier et condamné malheureusement à la relégation. Et Paris est 9e. Chez les femmes en Liga, le Valois-Paris continue sa bonne lancée en gagnant 3-1 face à Quimper. Le club des Hauts-de-Seine est passé leader du championnat à un point du Pays d'Aix, Venelle, deuxième.
Très bien, merci Alexandre pour ce copieux menu des sports. Juste 30 secondes, vous faites des podcasts. Hein.
Oui, on fait des podcasts. Ouais. Ça s'appelle Padel Noche.
Ouais.
L'idée, c'est une fois par mois, en direct du club Padelis Bercy, podcast filmé et rediffusé ensuite sur Spotify. Et on a reçu des influenceurs. On a reçu Big Colombien, je crois que tu connais.
Ouais. Oui, oui, bien sûr.
Big Colombien, on a reçu Florence Inama Pongol, Jason Brokers, oui, un humoriste, et Thibaut Vézirian aussi, un super journaliste sportif.
Ah oui, ouais, j'étais venu ici aussi. Merci en tout cas.
Avec plaisir,
Antoine. Et puis, bah, on laisse merci à Léo hein, d'avoir une nouvelle fois mené de main de maître cette émission. Puis on vous laisse avec Au bout du foot qui va prolonger cette belle et folle semaine de foot. Belle soirée à toutes et à tous. On finit en musique comme chaque lundi. Et puis, bah, vive le paddle. Hein,
merci.
C'est ça,
ouais, merci, ouais, pour l'invitation, ouais, et à bientôt alors. Salut. Merci.